ça fait trop de bien. Ça dégourdit les jambes, allez-y.
J'adore ça, moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez de chez vous,
je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête, les t-shirts fermes, sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette. C'est
la culture.
Allez-y, quoi.
Sortez.
Sortez.
Sortez,
c'est
cool. Ok, vous voulez sortir?
Écoutez,
sortez.
Vous voulez sortir?
Je suis chocolat,
Sors !
Il est 16h sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis comme toujours accompagnée par mon acolyte, mon binôme en service civique, Samuel.
Bonjour Marie.
Salut, salut. Aujourd'hui, nous vous proposons donc une émission faite de différentes revues culturelles sous forme de trois chroniques qui seront entrecoupées de quelques morceaux. On retrouvera donc Émile Londonien, Gabi Parafina et Hélé. Puis Samuel vous présentera donc une artiste australienne qui a récemment sorti un EP. Concernant donc cette première chronique, il s'agit d'un petit travail que j'ai réalisé suite au spectacle du groupe N+1 qui a été organisé avec le service culturel de l'université. Spectacle qu'on est allé voir donc avec Samuel vendredi dernier et qui est intitulé « Journal d'une exploration sonore ». La seconde chronique, on commence à bien la connaître sur Radio Campus Tour, puisqu'il s'agit de la chronique validée d'Estelle, qui portera cette fois-ci sur Fabrice Mettet et ses peintures, qui sont à retrouver donc à l'atelier-galerie J'ai deux amours à Tours. Et la troisième chronique, et pas des moindres, c'est celle de notre nouvelle recrue Nathanaël, étudiante en sociologie, qui propose donc du contenu sur les femmes influentes de la pop. Et pour cette première édition, c'est le phénomène Taylor Swift qui sera introduit.
Et donc, pour finir cette émission, je vous présenterai du coup Elle Elliott, une artiste R&B soul australienne basée à LA, qui a du coup sorti son dernier EP ce 6 septembre 2024. On va commencer par la toute première chronique. Spectacle. Le spectacle, journal d'une exploration sonore.
Le Vercors en face, de l'autre côté la Chartreuse, entre les deux.
Et alors là, c'est la première fois que je vivais ça. C'est que je pense que les chamois avaient intégré le fait que
la grisaille urbaine, son agitation fait toujours là.
Je devais pas être là. Parce que au mois de novembre, il n'y a pas d'humain. Et alors, je n'ai jamais vu autant de chamois.
Le service culturel universitaire s'associe au groupe N+1 et propose le Jardin d'écoute, une installation immersive en libre accès dans la salle de lecture de la faculté des Deux Lions, du 5 au 12 décembre 2024. Un spectacle est associé à cette installation, Journal d'une exploration sonore, et la dernière représentation est le jeudi 12 décembre à 20h30. Journal d'une exploration sonore, c'est le récit d'une traversée à l'écoute du territoire, de ses populations et des milieux qu'elles habitent. À différentes périodes de l'année, réparties sur 2 ans, le groupe N+1 a sillonné le territoire grenoblois à la recherche du vivant. Il a rencontré des habitants et habitantes, enregistré des paysages et composé le témoignage de cette exploration. À travers un décor fait de nombreuses pièces de laine, de sons captés dans la nature et retransmis via différents dispositifs ingénieux, l'installation invite à la curiosité et à l'expérimentation. Nous nous sommes rendus à une des représentations du spectacle, le vendredi 6 décembre, et nous avons pu poser quelques questions à Michael Chouquet, Balthazar Daninos et Christophe Avard, acteurs et compositeurs de cette œuvre sensible et dédiée à l'appréciation du vivant et de sa sensorialité. Je les remercie une nouvelle fois d'avoir pris le temps de nous rencontrer.
Nous avons traversé la mer de nuages, sans vraiment nous en rendre compte. Maintenant, elle est là, à nos pieds, baignée de lumière. Comme si on était passé de l'autre côté du miroir. Envie de traverser avec une embarcation sur les rives et les cimes de l'autre rive.
Donc on est avec Balthazar, Michael et Christophe du groupe N+1. Pourquoi avoir choisi de concentrer cette exploration sur les côtes du territoire grenoblois et qu'est-ce qui vous a particulièrement attiré dans cette région ?
Alors avec le groupe N+1, on a beaucoup travaillé à Grenoble. Qui s'appelle l'atelier Arts et Sciences, qui est relié à un théâtre qui s'appelle le théâtre de l'Hexagone. Et ça fait des années qu'ils accompagnent des artistes et des scientifiques à travailler ensemble. Et voilà, dans le cadre d'une résidence qui s'appelle résidence terrestre. L'atelier Arsos nous avait demandé de faire une enquête sur le vivant. Et on a fait toute une résidence autour de cette question. Et un des objets qu'on a fabriqué, c'est à partir d'une exploration du pays Grenoble, du vivant dans cette région de montagne. Aussi, en gros, il y a pas mal de chercheurs.
Et ce qui est singulier quand même à Grenoble, c'est le fait que c'est une ville qui est à l'intersection de trois massifs montagneux. Donc la montagne est très très présente, tout de suite très vite. Et donc, et puis on y allait à plusieurs saisons. Donc voilà, cette idée de faire une expédition, une exploration sonore à différentes saisons en relation avec un territoire qui a quand même une sorte quand même de charge, une singularité forte quoi, avec ces massifs montagneux.
D'où elle vient cette volonté d'aller à la recherche du vivant?
Le groupe Enprison s'est auto-constitué comme un groupe de recherche en se posant souvent des questions plutôt démesurées, quoi, comme si on pouvait essayer de répondre à des grandes questions, c'est quoi le vivant? Et c'est un jeu en même temps. On s'y attaque très sérieusement, mais en même temps c'est un jeu et ça permet aussi d'inventer des théories, d'imaginer des réponses, d'extrapoler un peu à partir du... d'enquête quand même réelle, de témoignages, d'expériences qu'on vit.
Comment elle s'est déroulée la collecte du son et quelles ont été les étapes de cette exploration?
Alors, les conditions de prise de son, c'est toujours des rencontres. Il y a le fantasme de la rencontre et de le. Il y a un grand désir, quoi. Et puis, je dirais un peu le fantasme, c'est-à-dire que j'imagine ce que je vais rencontrer. Je dis, ah ouais, les montagnes, donc il va y avoir ça, puis peut-être ça. Puis... En fait, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, il peut y avoir les conditions climatiques, le vent, la pluie, la neige, le froid, l'eau. En même temps, ce qui est génial, c'est que ça participe à l'aventure, c'est-à-dire que quand on rentre à la maison et qu'on écoute dans le studio après ces sons-là, ben on retrouve l'aventure et on retrouve les contraintes et on retrouve les problématiques et on retrouve la chaleur, le froid, les odeurs et puis parfois l'appréhension, la peur même. Et c'est très vivant aussi dans la réécoute post-enregistrement.
Et quelles rencontres ont été les plus marquantes autour de cette exploration? Est-ce qu'il y a des témoignages qui vous ont particulièrement touché?
Moi, comme ça, je pense à quelques acteurs ou actrices principaux qui sont devenus des acteurs principaux du journal. Il y a Freddy Mignan, c'est quelqu'un qui a été longtemps gardien de refuge, on l'a rencontré comme ça, mais en fait, on se rend compte que c'est une sorte d'homme politique de la montagne, c'est-à-dire que il préside une association et il est très très actif en montagne pour mettre des gens ensemble à réfléchir sur aujourd'hui ce territoire, comment il vit, avec aussi les bouleversements liés au désordre climatique. Et il met des gens ensemble pour réfléchir à la fois les gens qui veulent par exemple faire des retenues d'eau pour faire de la neige en hiver jusqu'en 2050, même si la neige tombe. Pour que les skis alpins puissent continuer, et puis à côté de ça, des militants écologistes qui s'approchent aux arbres pour empêcher ce genre de choses, etc. Donc c'est quelqu'un qui a été important parce que il a vraiment une sorte de pensée un peu sur le territoire dans lequel il est, et puis il a cette expérience singulière d'avoir été pendant 10 ans, passer plusieurs mois de l'année à plus de 3000 mètres d'altitude dans un refuge, comme gardien de refuge, donc avec de connaissances, d'expériences de la montagne. Et après, il y en a d'autres formidables qu'on a rencontrés. Enfin, il y a plein de gens formidables qu'on a rencontrés. Par exemple, Mark Higgins, qui est un anthropologue, qui est en fait une sorte d'artiste. C'est étonnant de se dire qu'il est anthropologue parce qu'il a des processus de travail, des protocoles de travail qui s'approchent plus de quelqu'un qui a cette expérience vraiment, on va dire, artistique. Ouais. Donc, c'est lui qu'on entend à la fin du spectacle qui parle de l'air, c'est toi Christophe qui lui a proposé une expérience sur l'écoute de l'air, il parlait de la respiration, travailler autour de ça,
et tu vas proposer une expérience dans la maison d'écoute de l'air ambiant.
Oui, ben, la rencontre, c'est les N plus 1, parce qu'à travers ce dernier projet, donc ce projet de journal, d'expédition, j'ai compris, ou en tout cas, j'ai mieux senti, ou mieux compris leur univers, et puis aussi comment ils abordent les rencontres, ils abordent des paysages, les personnes, comment ils les amènent aussi à se dévoiler, ça a changé mon rapport au vivant, ils sont vraiment bons parce que je pense que ça fait avancer les choses, et puis j'ai pu observer ça sur plein de rencontres que nous avons faites ensemble. Marc, moi, m'a beaucoup touché, oui, par sa sensibilité, sa fragilité. En plus, il est anglais, souvent il cherche ses mots, puis il y a des hésitations, il y a des creux, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le son. Puis on a cette visite dans la maison, et il avait une très très belle écoute, et puis il passait d'une pièce à l'autre. C'est comme si l'air était visible et palpable, quoi, c'est ça, quoi. Pour lui en tout cas.
Et quelle place le son il occupe dans votre processus créatif par rapport à l'image ou à d'autres formes d'art ?
Parfois, on est catalogué dans le théâtre d'objets, parce qu'on a hérité un peu de... On a commencé à rencontrer dans une compagnie des ateliers du spectacle, et très plastique sur les objets, mais on a toujours comme ça considéré que tous les médias, en fait, sont des... Donc, il n'y en a pas un qui présiderait à l'autre, enfin, tout à... un mot a autant d'importance qu'un son, qu'une image, qu'un objet, qu'un geste. Donc c'est plutôt de mettre un peu sur un pied d'égalité tout ce qui peut parler sur une scène, quoi. Et après, on s'est fait embarquer complètement dans le son par Christophe. Et c'est vrai que ça a été quand même un peu une découverte, même le fait de faire de la musique, ou de s'embarquer comme ça, faire de la musique avec des éléments naturels, des choses comme ça, quoi. C'est un peu une surprise, en tout cas pour moi.
Alors, je reprends. Pour moi, la question, elle est un peu évidente. Hein. C'est bon, quand même, mon médium, c'est le médium principal, et puis c'est celui... lequel je suis le plus sensible. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand je parle, je ferme les yeux. Parfois, quand j'écoute un spectacle, je ferme les yeux. Je vais voir un concert, je ferme les yeux. Donc, c'est quand même l'écoute tout le temps. Et c'est tout le temps. Voilà.
Et avec l'enregistrement de ces paysages sonores et de ces témoignages, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aux spectateurs ?
Pouvoir transmettre l'émotion que j'ai eue pendant l'aventure. Enfin, l'émotion, les sensations, pouvoir transmettre ça. Quand j'arrive à caresser, quand je sens que les gens, le public est un peu léché comme ça, un peu caressé, je me dis, ça me fait plaisir, ouais.
Est-ce qu'on peut parler d'une ode au ressenti, et peut-être pour se reconnecter aussi avec au vivant, avec ce qu'on voit, avec l'environnement ?
En tout cas, ça correspond à ce que j'aimerais transmettre au public. Ouais.
C'est un spectacle qui parle de qu'est-ce que c'est qu'écouter. Et écouter, ça c'est pas complètement claqué les oreilles. Et donc peut-être est-ce que l'écoute c'est le propre du vivant, justement. Parce que si il en parle à un moment donné, Freddy, il dit il est monté à un moment donné en montagne, à un moment où normalement, il n'y a pas d'humain dans les montagnes. Puis là, il se retrouve avec le chamois et il sent qu'en fait, il est observé, regardé. Et voilà, et le vivant nous écoute aussi. Et donc, ça peut retourner ce paradigme. Cette écoute, elle se fait, là, par exemple, avec les chamois, elle se fait aussi par le regard. Enfin, c'est une écoute, c'est ce que tu disais sur le sens. Enfin, c'est en fait tous les sens permettent cette écoute. Donc le sensible et le vivant, c'est très très connecté. Moi je faisais un jeu de mots quand on faisait notre enquête sur les gens, sur le sensible, comme s'il n'y avait pas de cible, en fait c'est que le vivant il n'a pas de but non plus. ça qui est intéressant. Il y a pas, donc on n'essaie pas non plus de transmettre complètement une vérité ou un message.
C'est juste une anecdote sur cette histoire des sens, en fait, et que ça passe par un sens et qu'on s'imagine les autres. Ça a un nom d'ailleurs. Rimbaud, il paraît qu'il avait ça s'appelle. Bah, c'est synesthésie, voilà, c'est-à-dire qu'on voit, on sent l'odeur d'une couleur ou quoi. Et hier, il y avait un petit qui est venu à la présentation là, qui nous dit mais ah oui, on fait le feu pendant le feu, donc on entend la flambée, on voit au Balthazar que tu grattes une allumette. Et lui, il dit et puis on sentait la fumée, on sentait le feu, quoi. Et donc nous, on lui a dit oui, exactement, on pulvérise des petits pics de. Mais en fait, il a senti le feu parce qu'il y était, quoi, voilà. Donc ça passe par. Ça fait des transferts et.
Voilà. Comment elle a été pensée, cette installation?
Alors, il nous manque une actrice principale de cette nouvelle œuvre qui s'appelle Céline Dies, qui est cinégraphe. Elle a eu cette impression d'haleine à un moment donné, le fait qu'on soit aussi couché proche du sol. Enfin, c'était l'idée du terrestre, cette histoire d'être sur Terre, quoi. Puis nous, on avait cette idée de jardin d'écoute. Ce mot était venu en se disant dans ce jardin, il y aura des spécimens. Et quand on a dit ça à Céline, elle s'est dit, on ne va pas représenter. Elle s'est dit, tiens, en fait, il n'y aura pas des spécimens, il y aura le nom des spécimens, et il y aura comme une forêt. Donc on a demandé à un collègue à nous d'écrire une série de, je ne sais pas, 1500 spécimens. Donc il a vraiment, c'est comme une petite commande qu'on lui a fait, Léo Laroche. Il a écrit comme ça, il nous a fait une liste de spécimens de la fourmi au coléoptère, au baobab, à l'astroblème, de rochechouart, au minster. Après, ça fait c'est comme des êtres vivants, mais c'est plus trop la frontière entre un vivant, un être vivant, quelque chose qui est vivant.
Le vivant a toute une. Ouais, tout ce que ça fait, c'est de souligner un anthropocentrisme où l'univers se divise entre l'humain et tout le reste. Quel nom de quoi, quoi. C'est complètement délirant, quoi. Comme... C'est un peu comme. The rabbit hole dans Alice in Wonderland. Une fois qu'on y entre là-dedans, en fait, on tombe.
C'était la chronique du journal d'exploration sonore. Sur Radio Campus, on va faire une petite pause musicale avec Émile Landonia et son titre Catch the Light. Thank you.
Et c'était Émile le Londonien sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, avec le titre Catch the Light. Aujourd'hui, donc, une émission, on poursuit notre émission axée sur les chroniques culturelles et place maintenant au format validé d'Estelle, qui porte sur l'artiste Fabrice Mettet et ses peintures, donc, qui sont à retrouver à l'atelier galerie J'ai deux amours à Tours.
Sur Radio Campus, va voir, lis-le, découvre. Fabrice Mettet est un peintre tourangeau profondément inspiré par les paysages, notamment ceux de la Loire. Il explore le jeu subtil des ombres et de lumière et les dynamiques de mouvement liées à l'environnement. Sa peinture navigue entre les influences classiques de l'histoire de l'art, nu, portrait, nature, mais avec une esthétique épurée qui privilégie la sincérité à la beauté conventionnelle. Écoutez plutôt.
L'important, c'est de peindre. En fait, l'art, en général, c'est pas une histoire de beauté. Puis il faut que ça soit le plus sincère possible.
Fabrice Mettet se distingue par sa recherche approfondie autour de la matière, ce qui est particulièrement visible dans sa série noire. Dans cette suite de tableaux, il utilise un matériau surprenant, le coton gratté, dont la texture veloutée devient un véritable terrain de jeu créatif. Le noir, loin d'être uniforme, est sculpté en nuances, créant des contrastes subtils et une texture qui capte la lumière, offrant une profondeur et une richesse uniques aux œuvres. Sa recherche ne s'arrête pas là, Fabrice expérimente également avec d'autres matériaux comme le bois. Parfois, il détourne des supports classiques, comme les canevas, pour réinscrire ses objets dans une nouvelle dynamique artistique. En jonglant avec les époques et les styles, il mêle éléments anciens et expressions contemporaines, créant un dialogue visuel entre le passé et le présent dans une approche innovante. Méthodique et instinctif, Fabrice travaille par série de 20 à 30 tableaux, explorant à chaque fois de nouvelles directions en termes de lumière, texture et composition. Et comme vous l'avez compris, si une peinture n'atteint pas l'objectif émotionnel souhaité, elle est laissée de côté ou utilisée comme base pour de nouveaux essais. Cette démarche exclut la répétition, chaque toile étant une aventure unique. Transporté par le maniérisme, il réinterprète l'art sacré pour l'orienter vers le profane en excluant tout aspect religieux. Il trouve aussi une source d'inspiration inépuisable dans les fêtes galantes qui s'étend jusqu'au XVIIIe siècle et privilégie une peinture vivante avec une exaltation plus humaine et sensible de l'effervescence populaire.
Parce que l'important, en fait, c'est la ferveur, en fait, l'espèce de ferveur. Et peu importe la manière, le maniérisme, l'important, c'est d'arriver au but. Et cette ferveur-là, elle est palpable, même par rapport à la peinture italienne du baroque ou de la Renaissance. C'est beau. C'est mignon, c'est léché, c'est propre, l'organisation elle est nickel et tout quoi. Mais on s'ennuie un tout petit peu. Il y a une recherche d'émotion et puis elle est coupée à un moment.
Loin de rechercher la perfection technique ou d'imposer un message, Fabrice Mettet invite le spectateur à une exploration libre à travers une démarche introspective. Son objectif est de créer des œuvres ouvertes, capables d'éveiller l'imagination sans enfermer le spectateur dans un message politique ou un dogme prédéfini. En cela, son travail offre à chacun la possibilité de projeter ses propres ressentis et réflexions sur sa peinture. Ses tableaux nous rappellent que l'art est un dialogue intime avec la matière et les idées. Peintre depuis l'adolescence, Fabrice Mettez a étudié aux Beaux-Arts d'Orléans, dans cet élan des années 80, avant de diversifier ses expériences artistiques. Dans les années 90, il était bassiste et membre fondateur de Portobello Buns, un groupe punk noise ayant connu un rayonnement international. Fabrice est ensuite recentré sur ses projets visuels et s'il arbore toujours sa crête légendaire, il garde de ce parcours éclectique le goût de la liberté, de l'exploration artistique et du non-conformisme.
Dans ma génération, on a eu vachement de chance parce que peut-être qu'on n'aurait jamais eu accès à l'art. Et là, il y avait vraiment un mouvement populaire. Comme le punk a amené plein de gens à faire de la musique, même s'ils ne savaient pas jouer de la guitare ou de la basse ou de la batterie, là, ça a amené plein de gens qui ne savaient pas peindre, qui n'avaient pas appris à peindre, à prendre quand même les pinceaux ou les bombes, etc., et qui sont lancés. Donc, en fait, le premier pied à l'étrier, il était mis. Et après, celui qui voulait en savoir un peu plus, libre à lui, quoi. Il n'y avait plus qu'à aller chercher dans les bouquins, dans les musées, etc., pour avancer, justement. Et ça, moi, je trouve ça super bien.
Prenez le temps de plonger dans l'univers de Fabrice Mettez. Pour cela, vous pouvez visiter en accès libre la galerie G2 Amour, située rue du Petit Saint-Martin, où vous pourrez aussi découvrir les créations d'une autre artiste, mais je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez également suivre les expositions itinérantes dans la région ou admirer les œuvres de ce peintre à la galerie Pénélope de La Rochelle. Bref, que vous soyez de Tours ou d'ailleurs, laissez-vous séduire. Son art ne demande qu'à rencontrer votre regard.
Wow, c'était la chronique d'Estelle avec Fabrice Mettez et ses peintures à retrouver à l'atelier Galerie G2 Amour à Tours. On l'enchaîne directement avec une petite pause musicale sur Radio Campus Tours avec Ellie Forever, un feat avec Gabi Parafina. Thank you.
Venez d'écouter Elle et Gabi Parafina avec le titre Forever sur Radio Campus Tour, le 99.5 et l'émission Sortez. On enchaîne donc avec cette troisième chronique de l'émission. La première chronique, la toute première chronique de Nathanaël, étudiante en sociologie, pour un contenu sur les femmes influentes de la pop.
Aujourd'hui, dans la première chronique des femmes influentes de la pop, nous découvrons Taylor Swift qui vient d'achever sa tournée mondiale. Pour commencer, voici un petit extrait du film de sa tournée pour vous plonger dans l'un de ses concerts. Welcome to the Eras Tour.
This has been the most extraordinary experience of my entire life.
Elle a commencé le 17 mars 2023 et s'est achevée ce dimanche 8 décembre 2024, soit 632 jours sur lesquels s'est étendue la tournée The Eras Tour. La tournée internationale de la chanteuse américaine Taylor Swift la pousse à des sommets records. Le Eras Tour est une tournée qui a traversé 5 continents, 21 pays et une cinquantaine de villes. Au travers des 44 morceaux chantés à chacun de ses concerts, elle retrace sa carrière en y rassemblant l'ensemble de ses albums. 11 au total. Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore, Midnight et enfin le dernier, The Tortured Poet Department. C'est une tournée monumentale. Elle s'inscrit dans l'une des plus grosses qui n'ait jamais existé. On compte plus de 150 dates, un concert qui dure donc plus de 3 heures, 13 changements de tenue par concert qui se diversifient pour chacun de ces shows. C'est clairement la tournée de tous les records, avec 11 millions de spectateurs, plus d'1 milliard de dollars de recettes, et même un séisme de magnitude 2,3 enregistré lors d'un show à Seattle. En bref, le Eras Tour, c'est une performance absolument incroyable. En France, Taylor est passé à Paris, à la Défense Arena pour 4 dates et à Lyon au Groupama Stadium pour 2 dates. Lors d'un concert, elle a même évoqué le fait qu'elle regrettait de ne pas avoir fait plus de shows dans l'Hexagone. Hey, Taylor Swift, c'est des productions qui créent énormément d'engouement. En plus de sa tournée, elle propose le film de son concert et aussi un livre qui retrace ce qu'elle a vécu depuis le début de cette expérience. Taylor Swift est une femme qui possède énormément d'influence. Ses fans sont appelés les Swifties. Ils adhèrent aux paroles des musiques en s'y reconnaissant ou en les adoptant. Ils échangent des bracelets d'amitié qu'ils ont conçus lors des concerts. Ils s'habillent aux couleurs de leur album favori ou encore s'écrivent le chiffre 13 sur la main qui est le préféré de la chanteuse. Ce sont des caractères qui permettent de se reconnaître entre les fans. Broke up the first time, saying this is it, I've had enough, 'cause like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. Si Taylor Swift possède une monstrueuse influence dans le milieu musical, elle possède aussi une certaine influence sur le plan politique. En effet, lors des élections américaines, elle s'est prononcée sur le réseau social Instagram où elle encourageait le vote pour Kamala Harris. Donald Trump en a même réagi par dire qu'il détestait la chanteuse sur le réseau social X. Influence musicale, influence politique et bien entendu influence économique. La chanteuse a impacté l'économie mondiale par ses concerts mais aussi par tout le merchandising qui est lié ou encore au tourisme que ces événements attirent. On appelle cela l'effet Swift. D'autre part, sa stratégie marketing repose sur la rareté ainsi que sur l'exclusivité. Elle crée donc un sentiment d'urgence chez ses fans et ces derniers veulent absolument se procurer les derniers disques, les derniers vinyles et autres produits que la chanteuse propose. Cela fonctionne, les produits disparaissent très rapidement. C'est actuellement la chanteuse pop la plus riche du monde. Sa fortune s'élève à 1,6 milliard de dollars. Contrairement à d'autres célébrités comme Rihanna, Selena Gomez ou encore Ariana Grande, elle ne possède pas sa propre marque de maquillage ou de vêtements et doit sa fortune et sa notoriété uniquement grâce à ses productions musicales. Taylor Swift, c'est près de 17 années de carrière. Elle a signé son premier contrat de disque lorsqu'elle avait 15 ans. Cette dernière écrit elle-même ses chansons. En 2019, un épisode important marque sa carrière. La maison de disques qui détenait ses enregistrements est rachetée et Taylor ne peut reprendre les droits sur ses premiers albums. Elle décide donc de retourner la situation, réenregistre ses morceaux en y ajoutant le fameux Taylor Version pour identifier la réelle version à écouter pour ses fans. Taylor reprend le droit de ses productions. La pop star se bat aussi pour la cause féministe, que cela soit dans ses paroles de chansons ou bien même dans sa vie. Elle a même été victime d'une agression sexuelle par une main aux fesses lors d'une séance photo, une affaire qui s'est finie au tribunal en faveur de Taylor Swift. Et pour elle, elle disait même dans son documentaire Miss Americana que c'était une victoire pour les victimes qui n'avaient pas gain de cause. C'est aussi une femme qui a souffert de troubles du comportement alimentaire. Pour ses fans, sa guérison et son affirmation de ne pas avoir un ventre plat sont une réelle source d'inspiration. Il est vrai que lorsqu'elle était jeune, l'icône de la pop était très mince. À nouveau, dans son documentaire Miss Americana, elle témoigne du fait que nous ne serons jamais comme la société veut que l'on soit et qu'il faut apprendre à s'aimer tel que l'on est et ne pas prendre en compte les divers critiques et avis que l'on peut recevoir sur son physique. Si nous devions étudier cette énorme influence qu'a Taylor Swift sous un angle sociologique, il serait possible de qualifier la pop star de réelle icône charismatique dans la définition de Max Weber. Une autorité reconnue par un groupe qui confère à une personne une forme de pouvoir en raison de ses qualités exceptionnelles. Pour Taylor, ses fans lui donnent la qualité d'icône légitime. En effet, les Swifties créent une réelle communauté autour de cette personne, de par les directions qu'elle peut donner. Cette dernière crée réellement une culture qui lui est propre. On peut donner un exemple en plus de toutes les tenues, c'est celui des Easter eggs. Les Easter eggs, ce sont des éléments cachés dans les concerts, dans les clips et autres productions de la chanteuse que les fans cherchent à déchiffrer et deviner afin de savoir les surprises qu'elle prépare. À ce jour, le Eras Tour est l'une des plus grosses expériences que la popstar n'ait jamais vécue. Dimanche a signé la fin du Eras Tour et Taylor manque déjà à ses fans qui attendent avec impatience de nouvelles chansons, de nouveaux concerts et de nouvelles surprises.
Waouh, c'était la première chronique de Nathanaël, étudiante en sociologie, qui... je ne peux plus parler en fait, c'est grave. Sa première chronique qui a apporté sur Taylor Swift, donc comme vous l'avez entendu, vous pourrez la rentendre au cours de cette année. On espère que cela vous a plu. Et moi, du coup, en cette fin d'émission, je vais vous présenter Elle Eliad, une artiste R&B soul australienne basée à LA. Qui a sorti plusieurs EP cette année. Je ne vous ramène pas n'importe qui. Hein. C'est quand même 130 000 auditeurs mensuels partout dans le monde. Un titre qui s'appelle You, sorti en 2021 en feat avec RL King. Une pépite à 8 millions d'écoutes. C'est vraiment pas n'importe qui. On va écouter You d'Eliad feat RL King. En feat.
Say take my hand, follow me, I'm all for you, babe. If you're for me, but I'm scared to trust, cause I'm scared you'll break it. But if I don't trust, how we ever gonna make it? I love you. Baby, I ain't like.
Marie.
Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah c'est plutôt sympa, ça passe bien. C'est un petit morceau, ma foi, agréable.
Alors, petite anecdote, j'ai connu cet artiste en scrollant sur TikTok. Je suis tombé sur... Bon, si je donne les détails, on va se foutre de ma gueule. Je suis tombé sur... sur une série un peu romantique, un K-drama. Il y avait cette musique. Et oh, le miel qu'il y avait dans mes yeux, dans mes oreilles-écouteurs.
Ah, carrément.
C'était incroyable. Je te promets, j'étais là en mode... Oh, mais il faut que je télécharge ce son.
Donc, il okay, y a toute une histoire derrière ce son.
C'était magnifique.
Et c'était quoi, le K-drama?
Je dirais pas. Et du coup, pour encore un peu appuyer, pour donner un peu c'est qui la personne qu'est El Eliade, c'est quand même un son qui s'est retrouvé dans le top 4. Dans le top 10, pardon, à la quatrième position des Fresh Fies R&B. Donc, en gros, Spotify, bon, on ne fait pas trop de pub ici, mais Spotify fait chaque année un résumé des belles trouvailles R&B et elle s'est retrouvée quand même top 4. C'est bizarre qu'elle ne soit pas aussi plébiscitée par tout le monde. Bref, je ne vais pas faire autant de pub à Spotify.
Non, pas à Spotify, mais à l'artiste.
Ce que j'aime le plus chez elle, c'est sa voix, mais aussi ses paroles. C'est des paroles assez simples, qui ont beaucoup de profondeur. On sent qu'il y a une recherche, qu'il y a quand même un certain vécu par rapport avec, par exemple, R.L. King. Bref, je ne vais pas aussi raconter la vie des gens. Et c'est une chose aussi que j'adhère chez cette personne, c'est qu'elle ne recherche pas à être un peu... recherche pas trop d'insultes qu'il y a dans ses paroles, pas trop de... Bon, j'ai un peu titillé un peu le monde du rap ou du R&B, mais ça parle pas trop de cul, entre parenthèses. j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est vrai qu'habituellement, dans le rap ou dans le monde, dans le milieu de la pop, du R&B ou de la soul, c'est des choses qui sont très souvent répétées. Là, on a quelque chose de profond qui vient toucher aux oreilles des auditeurs. Et pour finir, on va écouter Utopia.
Une revue poétique.
Exactement, très poétique.
Qui parle pas de cul.
Pour finir, on va écouter Utopia, son dernier EP, sorti le 6 septembre 2024.
Myself and those dreamy face lines.
C'était Utopia de El Eliad sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Alors bon, je vais te dire plutôt merci Marie pour cette belle émission.
Mais merci à toi aussi.
On se retrouve demain 16h-17h à la même heure avec l'ensemble Ptix et l'Iceberg pour la soirée Ensoleil Night ce jeudi 19 décembre à 18h. Et nous, on se dit bonne soirée.